Eh bien, on salue tout le monde et comme Dominique l'a fait, on est bien content que vous soyez ici ce matin. On veut saluer les gens qui nous écoutent sur Internet aussi. Cynthia me disait que sa sœur est à Sherbrooke et nous écoute ce matin. On veut vous saluer là-bas et saluer tous ceux qui nous écoutent un peu partout. Il y avait un jeune homme qui a été nommé président d'une banque. C'était un jeune, là. Il a été nommé, il avait beaucoup de talent, évidemment, et puis il a été nommé président d'une banque. Alors, il était nerveux, prendre son poste et tout ça, c'était tout un job. Et puis, donc, il a décidé, il a pris son courage à deux mains. Et ce qu'il a décidé de faire, c'était d'aller voir l'ancien président qui avait eu beaucoup de succès, puis il était rendu avec des cheveux gris, tout ça, il avait eu beaucoup d'expérience et tout ça. Alors, il était nerveux, mais il est allé le voir, il a pris son courage à deux mains, puis il est allé le voir, puis il lui a demandé des questions pour avoir un peu apprendre, hein, des conseils, avoir des conseils. Donc, il demande au monsieur. Le monsieur avait accepté de le rencontrer, alors il demande au monsieur, écoutez, quel est le secret, quel a été le secret de votre succès? Alors le monsieur est là, un homme d'expérience, sage et tout ça, il pense, il répond, il dit, deux mots, bonne décision. OK, merci, merci, le jeune homme était là, il dit, OK, c'est bon. Et comment on fait? Comment on fait pour prendre des bonnes décisions? Alors, le monsieur réfléchit, puis il répond, puis il dit, un mot, expérience. OK, ah, merci beaucoup, c'est bien gentil, puis ça. Alors, le jeune homme lui demande, il dit, bon, mais comment on fait pour acquérir de l'expérience? Le monsieur est là, puis il regarde, puis il dit, deux mots. Mauvaise décision. On aimerait tous avoir quelqu'un d'expérience, hein, voir ça a l'air de quoi la maturité, quelqu'un d'expérience. Et c'est la même chose comme chrétien, comme enfant de Dieu, nous voulons grandir pour acquérir de la maturité spirituelle. What does it look like? À quoi ça ressemble, cela? Comme vous savez, on a commencé une série il y a quelque temps dans 1 Timothée. On continue à travers cette lettre-là. Et ce matin, on entre dans le troisième chapitre de la lettre à Timothée. Et puis, on veut se poser la question, parce que Paul va commencer en parlant à Timothée, en donnant des critères, des conditions, des critères pour être anciens et pour être des diacres et des diaconesses. Comment choisir des leaders qui vont contribuer à faire avancer le royaume de Dieu? Alors, il est question d'anciens, de diacres et de diaconesses. Alors, ce qu'on va trouver dans le passage qu'on va lire ce matin, ce sont des conditions minimales pour le leadership spirituel. Alors, il ne s'agit pas des critères inatteignables à quelque part là-bas, là, que seulement une couple de personnes peuvent atteindre. Ces critères, en fait, ces vertus chrétiennes, ces qualités que l'on va retrouver ici, sont en fait des standards pour tous les chrétiens. On le voit ailleurs, parsemé à travers les Écritures. Alors, si d'un côté, on a effectivement des critères pour se choisir des anciens pour l'Église, et des diacres et des diaconesses, cette liste va définir les signes de la maturité chrétienne, de la maturité spirituelle. Alors, si vous demandez à quoi ressemble la maturité spirituelle, on va voir le portrait ce matin. Si vous vous demandez « qu'est-ce que je devrais rechercher en termes de croissance dans ma propre vie? » Alors, à ce moment-là, tu regardes cette liste qu'on va regarder ce matin. Si vous voulez savoir comment tu peux faire une différence à ton travail, dans tous les milieux de ta vie, que ce soit même dans tes loisirs, tu peux passer à travers cette liste. Cette liste représente à la fois des critères pour se choisir des anciens, des diacres et des diaconesses, mais en même temps, elle nous fournit un portrait de la maturité spirituelle. Ça nous montre en quoi ressemble la maturité spirituelle. Donc, on va ensemble tourner dans 1 Timothée, chapitre 3, et nous allons lire les 13 premiers versets. 1 Timothée 3, versets 1 à 13. D'accord? 1 Timothée 3, versets 1 à 13. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, littéralement dans l'original, ça dit évêque, mais ce sont tous des synonymes, que ce soit évêque, que ce soit pasteur, que ce soit ancien, c'est la même chose. Alors, si quelqu'un aspire à la charge de pasteur ou d'ancien ou d'évêque, de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Et c'est vraiment intéressant parce que dans l'original, l'idée, c'est il le désire pour lui-même. Et Dieu honore ça, de vouloir aller jusque-là, aller grandir et chercher cette maturité spirituelle. Verset 2, « Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être un buveur violent, ni attiré par le gain, mais au contraire, doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut, enfin, qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni à être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ah, peut-être les deux prochains. Je t'écris cela dans l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras aussi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Bon, allons jusqu'au bout rendu ici. Hein? Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, et il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde et a été élevé dans la gloire. Alors, oui, on va parler des critères pour être ancien dans l'Église et des diacres, diaconesses, mais il faut regarder cette liste comme un portrait de la maturité spirituelle. Donc, ça s'adresse à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. On ne peut pas juste regarder la liste et dire « Ah, ça c'est pour les anciens, ça ne me regarde pas ». Absolument pas. C'est un portrait de la maturité spirituelle auquel nous voulons tous aspirer, comme nous dit les Écritures. Le Nouveau Testament montre qu'il existe deux offices, pour ainsi dire, les anciens et les diacres, diaconesses dans l'Église. Alors, la charge d'ancien, comme pour les diacres et les diaconesses, requiert des qualifications précises. Mais il faut préciser que toutes les vertus chrétiennes que l'on va retrouver pour les anciens et les diaconesses sont également à rechercher, nous disent les Écritures, ailleurs, un peu ici et là, pour tous les chrétiens, tous les membres. Même la qualité d'être apte à l'enseignement que l'on va retrouver pour les anciens va se trouver ailleurs pour les chrétiens. Oui, pas au même niveau, certainement, mais c'est aussi là, comme dans Pierre, qui dit que tous les chrétiens devraient être prêts à défendre ce qu'ils croient. Alors, ce que Paul fait ici, c'est de compiler dans le même passage. Alors, on les voit un peu éparpillés partout à travers le Nouveau Testament, mais ici, c'est comme si Paul va compiler dans une seule liste, comme il va faire un portrait de la maturité spirituelle, empaqueté là, dans ce passage-là. Donc, si on veut choisir des anciens, on veut au minimum voir ces vertus chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles reflètent, toutes les qualités que vous avez ici, reflètent vraiment le caractère de Jésus-Christ. Donc, ce sont des qualités auxquelles nous voulons tous développer, puisque nous sommes tous appelés à ressembler, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. De plus en plus à Jésus-Christ. On veut grandir. Et on retrouve essentiellement les mêmes vertus et qualités pour les diacres et diaconesses que pour les anciens. Donc, on va se concentrer sur les anciens ce matin, mais vous pouvez les appliquer pour les diacres. Alors, cette liste souligne le caractère. Elle révèle les qualités du caractère de celui ou celle qui a de la maturité spirituelle. Alors, on va regarder les marques ici ou les signes de maturité chrétienne. Et le premier signe de la maturité chrétienne va résumer pas mal tout ce qui va suivre. Et qu'est-ce que ça dit? Alors, il y a deux commentaires à faire bien importants ici. Cette liste parle de progrès et non de perfection. D'accord? Ça parle du progrès ici, l'aspiration de grandir, etc. Ça ne parle pas de perfection. Ça, il n'y aurait aucun ancien à l'église de Sentier. Laissez-moi vous dire. Moi, le premier, là, je ne serais vraiment pas là, là. D'accord? Donc, on ne parle pas de perfection ici, mais on parle de progrès. Aussi, ça parle du présent et non du passé. Premier signe de la maturité spirituelle, c'est qu'il est irréprochable. Et ça l'ouvre la porte vraiment aux autres, et c'est un résumé de tout ce qui s'en vient. Verset 2, « Il faut donc que le responsable soit irréprochable. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, absolument pas, mais on recherche la perfection, on veut grandir, on veut aspirer à devenir de mieux en mieux. Le dire d'une manière simple, celui qui a de la maturité spirituelle n'a pas de faiblesse criante. On pourrait dire comme ça, là. Des défauts criants. On a tous des faiblesses, on a tous des défis, on a tous des combats. Là. Timothée, qui était dans l'œuvre, le bras droit de l'apôtre Paul, avait des conflits, avait des combats, il livrait des combats. D'ailleurs, l'apôtre Paul sent le besoin de l'exhorter et lui dire, « Fuis, Timothée, fuis les passions de la jeunesse. » Il lui aurait jamais dit ça si Timothée n'avait pas ses combats personnels. Il parle à Timothée, « Fuis les combats, les passions de la jeunesse. » Alors, on a tous des combats. Mais il avait cette passion de vouloir grandir dans le Seigneur. Il voulait plaire à Dieu. Être irréprochable veut simplement dire que si quelqu'un à ton bureau, tu n'auras pas quelqu'un à ton bureau qui va dire ceci en parlant dans ton dos, en disant, ce gars-là, là, cette fille-là, ce gars-là, là, c'est un bon gars, là, mais mon ami, tu ne connais pas son caractère. Colle-toi pas à côté de lui, je te le dis, il est mauvais, il mord, il critique tout le temps. Puis, tu veux pas. Irréprochable, c'est que tu ne peux pas pointer du doigt dans sa vie et dire, mon ami, ce gars-là, il passe ses journées au bar. Là, Il se dit chrétien, mais. Tu veux pas, il se dit chrétien, mais. Tu veux pas avoir ça, là? Non, c'est ça, irréprochable. C'est pas une question de perfection, c'est qu'il n'y a pas de faiblesse criante. Récurrente. On est tous pécheurs, là, et on lutte tous avec nos affaires, là, nos bébites, là, puis on veut grandir là-dedans. Là. Nous ne serons jamais parfaits, mais on veut arriver au point où notre témoignage n'est pas contradictoire à ce qu'on croit. Alors, le prochain signe de la maturité chrétienne, c'est qu'il n'est pas un coureur de jupons. Alors, fidèle à sa femme, verset 2, c'est bien traduit. Ça ne parle pas de divorce ici, ça ne parle pas de célibataire. Il y a des gens qui ont tiré la conclusion avec ce passage-là, que les célibataires ne pouvaient pas être anciens. Ça n'a rien à voir avec ça. L'apôtre Paul était célibataire, puis il était même un apôtre. Ça n'a pas rapport avec ça. Ça parle que le gars ne passe pas ses journées à croiser des filles. Là. Il ne cherche pas à conquérir sans cesse, à multiplier les conquêtes malgré qu'il est marié. Certains voient ici une allusion à la polygamie, et effectivement, il y a des documents historiques qui démontrent, qui soutiennent aussi le fait que des gens dans la haute société de l'époque, comme les magistrats, l'aristocratie, les rois, les empereurs et tout ça, lorsqu'ils étaient dans la haute sphère, des gens assez riches et tout ça, étaient polygames. Il y a plusieurs documents qui le démontrent, qui le soutiennent. Hérode, par exemple, avait une dizaine de femmes, et puis... Donc, c'est possible que ce soit un problème, effectivement, et Paul veut dire que les anciens, eux, n'aient pas plusieurs femmes. C'est fort possible. Les documents historiques soutiennent cela. Maintenant, vous allez dire, bon, mais nous autres, ce n'est pas vraiment un problème au Québec, mais c'est un problème dans certains coins du monde. Moi, je me rappelle dans l'église où j'étais, un frère donnait son témoignage, puis il a été élevé dans une famille où le père avait, je pense, j'oublie le chiffre, mais je pense que c'était 18 femmes. Donc, alors, Paul est en train de préciser ici. Un autre signe de la maturité chrétienne, c'est la sobriété. Il est sobre. Le mot signifie avoir de la maîtrise de soi. Ce n'est pas un extrémiste. 4, celui qui a la maturité spirituelle est réfléchi. C'est la même idée que dans 2 Timothée 1, 7, où il est dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est quelqu'un qui apprend, qui canalise, qui réfléchit, qui regarde ses erreurs, et il apprend de ses erreurs, il apprend des erreurs des autres aussi. Vous savez, vous vous souviendrez de ce dicton qu'on a déjà mentionné, hein? Quelqu'un a dit, celui qui apprend de ses erreurs est intelligent. Celui qui apprend des erreurs des autres est sage. Mais celui qui n'apprend pas ni de l'un ni de l'autre est un insensé. Et ici, c'est ça, c'est la personne qui analyse, qui réfléchit, il est sage. Celui qui a de la maturité spirituelle est réglé dans sa conduite. C'est un mot qui est difficile à traduire. Nous, au Québec, on dirait « Ah, lui, il est bien élevé ». C'est un peu dans ce genre-là, dans ce sens-là. Sixièmement, celui qui a la maturité spirituelle est hospitalier. Et cela signifie simplement qu'il aime les gens. Il aime les gens. C'est bon pour les anciens, les diacres, les diaconesses, mais aussi c'est pour tout le monde. Il aime les gens. Tu veux connecter avec les gens, tu veux servir les gens, tu veux les aimer, leur faire du bien. Il est reconnu pour ça. Certes, celui qui a de la maturité spirituelle est capable d'enseigner, apte à l'enseignement, et dans un sens, on doit tous être capable d'enseigner ce qu'on croit. N'avons-nous pas enseigné nos propres enfants la parole de Dieu? N'avons-nous pas à partager à d'autres personnes qu'on emmène au Seigneur, qu'on veut emmener au Seigneur, la beauté de l'Évangile? Alors, on doit tous le faire. Même Hébreux, l'auteur aux Hébreux, va dire, vous devriez avec le temps être des enseignants. Il parle à Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde. En d'autres mots, on devrait tous étudier la parole de Dieu pour grandir, mais aussi pour partager aux autres ce qu'on a appris. Tu apprends ABC, partage le ABC que tu viens d'apprendre. Ça peut être transmettre tes connaissances de la parole de Dieu à tes enfants, ça peut être à un ami qui s'intéresse un peu au christianisme, ça peut être à quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, tu veux l'entourer, prendre soin, tu vas en faire des disciples. À première vue, on pourrait penser que ça veut seulement dire que si un chrétien est mature, il va être capable de venir en avant et parler devant toute la foule. Et là, j'entends déjà des gens dire, « T'es-tu malade? Je ne serai jamais mature si c'est ça que ça demande. » Aller en avant, parler devant tout le monde, il n'y en est pas question. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que ça. On s'attend absolument à que les anciens, certainement, soient capables d'enseigner, présenter la parole de Dieu adéquatement, défendre la foi, absolument. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ça que ça veut dire seulement. Vous savez que parler en public, c'est l'une des plus grandes phobies des gens. Vous connaissez peut-être l'humoriste américain Jerry Seinfeld. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, « La peur la plus citée au monde, parler en public. La deuxième peur la plus citée, la mort. » Ce qui veut dire que si vous êtes à un enterrement, vous préférerez être dans le cercueil que de faire l'éloge funèbre. Ça, c'est l'humour de Seinfeld, il faut le connaître. Maintenant, apte à l'enseignement ne signifie pas que ça. Pour les anciens, oui, on veut qu'ils puissent enseigner, partager les Écritures, défendre la foi, mais ça ne veut pas dire que ça. Ça comprend également l'idée de pouvoir transmettre aux autres ce qu'on sait. Vous savez ce que vous croyez, vous savez pourquoi vous croyez ce que vous croyez. 1 Pierre 3,15 dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous, devant tous ceux qui vous demandent raison. » Maintenant, si on veut faire des disciples, nous avons besoin de transmettre ce qu'on sait. Mais c'est particulièrement important pour les anciens de pouvoir défendre la saine doctrine. On vous disait l'autre jour que 20 % des lettres pastorales, les 1, 2 Timothée et Tite, 20 % portent sur des fausses doctrines, sur des erreurs. Et on se rappelle à Éphésiens, à Éphèse, comment il y avait cette erreur de généalogie, comment on interprétait les généalogies, on donnait à certains, se prenait pour des anciens, ils prescrivaient toutes sortes de règles pour alimentaires et tout ça, prescrivaient de ne pas se marier et tout ça. Alors, c'est vital. Paul va passer 20 % de ses 3 lettres pastorales pour montrer aux anciens comment corriger le tir et ramener à la saine doctrine pour avoir une église en santé. 8, celui qui a de la maturité spirituelle ne s'enivre pas. Alors, il ne doit pas être un buveur, verset 3, il ne passe pas ses journées sur le bord de la bouteille. Là, puis, ça fait penser justement, il y a un autre principe, le même principe qui est réitéré ailleurs dans un autre passage, Éphésiens 5,18, et qui s'applique à tous les chrétiens. Ça dit ceci, Éphésiens 5,18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche, ça mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Neuvièmement, celui qui a la maturité spirituelle n'est pas violent. Tu ne peux pas avoir des anciens qui sont des batailleurs à coups de poing. Littéralement, c'est ça que ça dit. Là. Coup de poing, un batailleur. Combien de fois je t'ai dit de prier tous les jours? Non, tu ne veux pas avoir des anciens comme ça. Là. Tu ne veux pas avoir des gars comme ça, non. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait quelqu'un à l'église de Lavalesse qui s'était converti. Hey, le gars, c'était un tough. Hey, c'est un dur à cuire, le gars. Hey, 9 fois la prison. Hey, il était tough, plein de tatous, prenait de la coke, puis tout ça. Le gars, il vient de se convertir. Donc, il vient de se convertir, donc, tu sais, c'est comme, il arrive à l'église, des fois gelé. Puis, tu sais, on l'aimait, on l'acceptait, on le prenait, et on en prenait soin. Il venait à la réunion de prière, le mercredi soir, puis tout. Hey, hein? On l'a emmené chez nous, hein, disons, t'en souviens? On l'a emmené manger chez nous et tout ça, puis, hey, mon doux. Là, moi, je me rappelle, mais c'était un gars qui était. Ah, il faisait de la fraude. Il s'en allait dans des grosses suites avec une fille qu'il rencontrait, grosses suites, là, dans des gros hôtels, 5 étoiles, là, puis il faisait des faux chèques. Il passait des nuits, mon ami, des affaires de suites, de millionnaires, tu sais, faux chèques, tout ça. Puis il réussissait à s'en sortir 1 ou 2 jours, là, mais après ça, je me rappelle une fois, il nous avait raconté que la police le suivait, il courait après, puis il était dans le parking, se cachait en dessous des voitures. Tu sais, genre de vie, là. Ouf! Fait que lui, il venait à notre église. Alors, des fois, c'était comme ça, là, tu sais. Fait qu'une fois, il y a un soir, il m'a tout raconté ça, à un moment donné, il dit, c'était un bon client du poste de police, en tout cas. Fait que là, un jour, il se fait attraper, il se fait accoster par un policier, puis il l'emmène au poste. Alors, il a menotte au dos, mon ami, il est rendu au poste, puis tout ça. Fait qu'il dit, écoute, là, il dit là, le policier lui dit, il dit, écoute, on va vérifier, là, tu as un mandat contre toi, on va savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on te relâche, qu'on t'emmène en dedans, dans une cellule, tu sais. Lui, il attend, là, il a des menottes, t'sais. Fait que là, le policier cherche, puis tout ça, puis il revient, puis il dit, ah, écoute, il va falloir te garder pour la cellule. Et là, il pète une crise, mon ami. Là, il est au poste de police. Il a des molettes dans le dos, puis il pète une crise. Là, il commence à se battre. Il a juste les pieds, là. Il commence à donner des coups de pied à tout le monde. Et ils sont rendus 5 à 8, je n'exagère pas, 5 à 8 policiers autour de lui pour le calmer, pour le rester, le garder tranquille. Et, hey, calme-toi, calme-toi. Il donne des coups de pied, puis tout ça, tu sais. Là, il rentre en dedans, puis tout ça, puis il fait son temps, puis il sort, puis il s'en vient de notre église, il revient de notre église, puis il nous raconte son expérience. Voici ce qu'il a appris, la morale de toute cette histoire. Il me raconte toute cette histoire-là. Et à la fin, il me dit, « Mais normal, j'en ai pogné un et j'en ai eu un. Je te dis que des coups de pied, je ne l'ai pas manqué. Puis il avait de l'air à avoir mal. » OK. Est-ce que je peux vous dire qu'on ne l'a pas mis ancien dans notre église? On lui a donné un autre job, par exemple. On lui a demandé de ramasser les offrandes le dimanche. Je ne sais pas pourquoi les offrandes ont grimpé le mois suivant, c'était sûr. Non, vous t'inquiète. Aïe, 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 tu ne veux pas avoir des anciens qui sont violents, qui règlent le problème à coups de poing, tout ça. Non, c'est pas ça. 10. Celui qui a la maturité spirituelle est doux et pacifique. Alors, il ne doit pas être un buveur, verset 3, violent, mais au contraire, doux, pacifique. Alors, ça parle d'attitude ici, vous le voyez, tout. Ça, c'est une belle description d'un caractère. Ça parle de caractère ici. Ça ne parle pas de performance. Ça ne parle pas là, d'avoir des dons et tout ça. Non, ça parle d'attitude, ça parle du cœur. Il est, en d'autres mots, il est un artisan de paix. Il ne sème pas le trouble. Il ne cherche pas le trouble. Il ne cherche pas à toujours avoir raison. Ce n'est pas un gars obstineux, toujours en train de s'obstiner. Connaissez-vous des gens comme ça? Qui pensent toujours avoir raison, puis là, ça s'obstine tout le temps. Tu n'as jamais raison. Tu leur parles, tu n'as jamais raison. Certaines personnes sont comme des pitbulls. Dans l'Église, est-ce que ça se peut, des pitbulls? Les pitbulls évangéliques! Ah, malheureusement, ça arrive. 2 Timothée 2, 23, Paul va continuer en disant ceci. D'ailleurs, il dit, « Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. » Or, regardez bien ce que ça dit, verset 24. Il dit, « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. » Parce que des fois, oui, tu as besoin de corriger. Il y a des fausses doctrines, des enseignements, des erreurs. Tu veux enseigner, corriger, tout ça. Oui, absolument. Mais il y a cet bel esprit de douceur, vois-tu? Peut-être Dieu leur donnera, si tu agis comme ça envers eux, les adversaires, peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Et revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, l'idée est d'éviter d'avoir un caractère confrontant, querelleur, obstineux. Tu sais, Éphésiens parle de notre langage, de communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. C'est, tu veux être édifiant. Quand tu parles, on veut être proche de toi, on veut te rencontrer parce qu'on t'est édifiant. Vois-tu? Tu bâtis. Tu veux bâtir les gens, les encourager. Celui qui a la maturité spirituelle est désintéressé. n'est pas un amoureux d'argent, il a du contentement. Puis on a vraiment un bel exemple avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit qu'il a appris à vivre riche dans la richesse et tout ça. Il y a eu un temps où il y avait beaucoup d'argent, puis il a appris à vivre dans la disette, dans la pauvreté. Puis il va dire dans Philippiens 4, il dit, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être assasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Il conclut en disant, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » En d'autres mots, quelle que soit la situation, que je sois dans la disette, que je sois dans l'abondance, ma force ne vient pas de là. La source ne vient pas de là, ça vient du Seigneur. Je me colle au Seigneur et lui va me donner la force pour passer à travers. Que je sois dans la disette, dans la richesse, dans les épreuves, dans des bons moments. Ma source, ma force, je puise dans la personne de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Deuxièmement, celui qui a de la maturité spirituelle dirige bien sa famille. Alors, verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. J'aime bien cette traduction-là. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? C'est le principe de rester fidèle dans les petites choses, quoique c'est une grosse chose, la famille, là, mais ça revient un peu à cette image que Jésus a donnée. Dieu confie les plus grandes. C'est le principe que comment on agit à la maison, c'est le reflet comment tu vas agir dans la famille de Dieu. Si je suis une brute à la maison, je vais avoir tendance à être brute dans l'Église, pas vrai? Certains diront que pour être un ancien, il faut que nos enfants soient des chrétiens. Ils vont se baser là-dessus, mais ce n'est pas ce que le texte original dit. George Knight, qui a fait vraiment, dans son commentaire sur 1 Timothée, a fait du beau travail sur l'étude, sur ce passage. Puis il arrive à la conclusion que ça n'a pas rapport avec la conversion, mais avec l'attitude de l'enfant. C'est d'organiser sa famille de telle manière qu'on y trouve du respect, du bonheur. On travaille à développer de l'intimité dans la famille. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs. Tous les parents font des erreurs. Mais le dialogue est ouvert. On cherche à prendre soin du cœur des enfants. Et pas juste donner des règles. Et je pense qu'on a fait beaucoup de tort, nous, la première génération de chrétiens. On donnait beaucoup de règles à nos enfants, mais on n'a pas contrebalancé ça avec une belle intimité pour bâtir cette confiance-là. D'ailleurs, Bob Lehman, c'est vraiment là que j'ai réalisé comment j'avais fait des gaffes. J'étais très fort à mettre des règles chez nous, mais moins fort à cultiver cette intimité-là lorsqu'ils étaient jeunes. Et puis, je me rappelle, Bob Lehman, ça m'avait frappé ce qu'il disait. Il dit, écoute, il dit, les règles, ce n'est pas le problème. On parle toujours, c'est les règles. Ah, il faut, laisse-les faire. Non, les règles, ce n'est pas le problème. Mais c'est qu'à mesure que tu mets les règles, au même niveau que tu mets les règles, il faut que tu bâtisses ton intimité avec l'enfant. Au même niveau. Tu mets plus de règles? Hein, mon ami, investis dans l'intimité avec ton enfant. Vois-tu? C'est capital, c'est majeur. Tu veux prendre soin du cœur de tes enfants. Et moi, je me rappelle ce beau témoignage que j'ai déjà dit de ce frère qui me racontait ce qu'il faisait avec ses enfants. Puis, tu sais, le soir, au moins, il s'assure qu'au moins, il passe beaucoup de temps avec ses enfants, mais le soir, il va s'assurer, il a plusieurs enfants, fait qu'il va s'assurer de passer tous ses enfants au cours de la semaine. Puis, il va se coucher à côté, il va commencer à parler à son enfant, puis il pose deux questions. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est beau et j'aurais tellement aimé ça, faire ça plus jeune. Mais vous ne me connaissez pas, mais dans ce temps-là, vous n'auriez pas voulu me connaître il y a plusieurs années. J'étais impulsif, j'étais impatient. C'est pour ça que ça me touche tellement, ce témoignage-là. Parce que j'aurais aimé ça, faire ça avec mes enfants. Mais je n'étais pas là. C'est vraiment plate. Mes enfants ont payé pour pendant un bon bout de temps. Mais ce gars-là me disait que le soir, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un enfant et il posait deux questions. Il dit, écoute, quel a été le plus beau moment que tu as vécu cette semaine? Puis là, il est collé à l'enfant, puis l'enfant s'ouvre, raconte quelque chose. Tu sais, ah, on a joué à ça, on a fait ci, on a fait ça, tu sais. Et là, tu écoutes, puis tranquillement, il va arriver à sa deuxième question. Quel moment tu as trouvé le plus difficile cette semaine? Et là, tranquillement, l'enfant va s'ouvrir. Il va parler de ses combats, il va parler d'un conflit qu'il a peut-être eu cette semaine. Il y a peut-être une amie qui l'a trahi dans le cours d'école. Puis il y a peut-être quelqu'un qui a parlé contre elle ou contre lui. Et tranquillement, lui, ce qu'il fait, il ne l'exhorte pas, il ne dit pas, oh, tu vois, ça va s'arranger, etc. Non, absolument pas. Il se tait. À ce moment-là, il la prend dans ses bras. Il écoute. Puis il la serre. Juste la serrer. Bon sang. Il la serre à côté. Tranquillement, il va lui dire, veux-tu que je prie? Puis on fait une belle prière. Puis il n'y a pas de message subliminal dans sa prière, pas d'exhortation, pas de conseil comment agir, rien. Tu m'en rien. Ah, il dit, Seigneur, fais du bien, mon enfant. Entoure-la, fais-lui du bien. Soulage-la, tu vois qu'elle a de la peine. C'est beau? C'est d'intimité avec nos enfants. Apprenez de mes erreurs. Moi, je n'ai pas fait ça. J'aurais tellement aimé faire ça. La personne sage apprend des erreurs des autres. D'accord? Moi je suis comme le papa ce matin, là, comme j'étais assis dans ma chaise berçante. J'étais en train de parler à ma famille. Je dis, faites pas ce que j'ai fait dans les premières années. Hey, je me suis trompé royalement. J'ai demandé pardon à mes enfants. On a bâti une relation et tout ça, mais... J'ai pris une chance ce matin. Je n'ai pas de Kleenex dans mes poches. Mais je te dis, j'ai dit, aïe, je prends une chance. Mais là, je suis correct. Ça rappelle des souvenirs. La maturité spirituelle vient avec le temps et avec les épreuves. Verset 6. Regardez ce que ça dit. Il ne doit pas être un nouveau converti. De peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de mal avec un nouveau converti? Il n'y a pas de mal avec un nouveau converti, absolument pas. Et un nouveau converti est spirituel, c'est instantané la spiritualité. Mais ce que ça laisse entendre ici, c'est qu'il y a vraiment une différence entre la spiritualité et la maturité. C'est deux choses différentes. Quand tu viens au Seigneur, tu es instantané, tu es spirituel. Quand tu viens à Jésus-Christ, puis tu ouvres ton cœur et Jésus vient dans ta vie, tu nais de nouveau, tu reçois son Esprit Saint, tes péchés sont pardonnés, tu es rempli de l'Esprit, tu es spirituel. C'est comme ça. C'est instantané. Mais ce n'est pas la maturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle, ça prend deux choses. Le temps. Maintenant, oui, il faut que tu continues à être spirituel tout ce temps-là pour grandir. Mais ça prend deux choses. Ça prend le temps et ça prend les épreuves. Les épreuves vont te faire grandir. Si tu les acceptes bien, si tu réponds bien à ça, comme on l'a déjà dit, hein, il y a certaines épreuves, il y a certaines personnes qui vont passer par la même épreuve, vont sortir brisées, enragées, en colère contre Dieu, alors que d'autres personnes sortent à travers la fournaise de l'épreuve encore plus douce, un caractère qui ressemble encore davantage à Jésus. Ça dépend de ton attitude, comment tu réponds face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Et Paul va donner une raison pour ça. Il dit, verset 6, il dit, « De peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le jugement, il ne tombe sous le même jugement que le diable. » Vous savez, trop vite, et il y a un danger pour ça, alors que le jeune va peut-être penser qu'il est au-dessus de ses affaires et tout ça, et tranquillement, il tombe dans l'orgueil. Alors, évidemment, il va y avoir des exceptions ici et là. Hein, vous connaissez le réveil, le gros réveil qui a eu lieu au Québec dans les années 72. Il y avait 35 églises dans tout le Québec évangélique en 72. Et en 72 et 80, ça a passé de 35 églises à 500 églises. Un réveil phénoménal au Québec. Alors, est-ce que je peux vous dire que les pasteurs, ils ont beaucoup d'expérience, c'était tous des jeunes. On faisait des gaffes, des erreurs et tout ça. Mon ami, les gens étaient patients. Mais ça va arriver, il y a des contextes pour ça. Et Paul, il a passé tout son voyage missionnaire, puis quand il est revenu, ça faisait juste 2 mois que les gars étaient convertis, puis il a mis des anciens, c'est comme des gars qui venaient de se convertir. Alors, ça va arriver, c'est des exceptions, mais règle générale, ce qu'on veut, c'est que les anciens qu'on veut choisir dans le sein de l'Église puissent avoir des années dans le Seigneur. Mais pas juste des années, on veut voir de la maturité dans le Seigneur. Quatorzièmement, celui qui a de la maturité spirituelle aime sa communauté. Verset 7. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Le gars est aimable. Maintenant, regardez Jésus. C'est un gars, il était aimable. Oui, les chefs religieux le détestaient, mais la foule l'aimait. Il était constamment invité à manger chez les gens. Et Jésus cherchait intentionnellement à établir des relations avec les non-chrétiens. Il se passionnait avec l'idée de pouvoir les aimer. Et il cherchait constamment à démontrer son amour pour les gens. Jésus ne se contentait pas juste d'avoir une relation superficielle. Il traitait les gens avec respect, avec amour. Il entrait dans leur vie. Il s'invitait même à manger des fois. On pense à Zachée. Et pourquoi? Verset 7, afin de ne pas tomber dans le discrédit, dans les pièges du diable. Pourquoi? Parce que si j'agis en idiot, les gens inconvertis, non chrétiens, vont dire, « Ah, son Dieu doit être un idiot. » Si je suis un arrogant à mon travail, ah, son Dieu est un arrogant. Voyez-vous? Ça, c'est le piège du diable qui est un accusateur. Et si tu regardes les statistiques, tu vas voir que si tu demandes aux gens comment ils sont venus au Seigneur, ça passe souvent, souvent à travers des relations. Sean Anderson a fait une grosse étude à travers tous les États-Unis pour découvrir finalement que 70 % des gens qui étaient venus au Seigneur, c'était à travers quelqu'un qui manifestait, reflétait le caractère de Christ qu'il connaissait, qui était proche d'eux. Il entrait par dans une relation. Alors moi, j'aimerais te lancer deux défis ce matin. Que tu retournes à la maison, que tu puisses te poser deux questions. Premièrement, est-ce que je comprends le genre de personne dont nous voulons avoir ici au Sentier pour être nos leaders serviteurs? On a une belle équipe en ce moment, un beau conseil. Et dans les prochaines années aussi, on veut continuer à bien choisir les anciens, les serviteurs, les diacres, les diaconesses. Puis deuxième question que j'aimerais te poser, j'aimerais que tu te poses à la maison, que tu repasses à travers cette liste et tu peux te poser la question suivante. Suis-je moi-même en train de devenir ce genre de personne-là que je vois ici? Dans ma quête vers la maturité spirituelle, y a-t-il quelque chose qui nuit à ma croissance spirituelle? Et dans quelle mesure puis-je prendre qui va m'aider à accélérer ma croissance spirituelle? Et comme enfants de Dieu, nous avons désespérément besoin de toujours revenir à la croix, que Jésus a tout couvert à la croix. Même si tu as fait des gaffes, des péchés, n'oublie pas, retourne à la croix où se trouve le pardon, la réconciliation. Voyez-vous ce portrait du caractère de Christ ici dans le passage qu'on vient de voir? C'est ce que le Seigneur est en train de faire en vous. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'il est en train de produire en vous. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons tant te remercier pour ta grâce, pour ton Esprit Saint qui nous aide. On n'est pas seul, tu ne nous as pas laissé orphelins. Tu veux nous emmener à voir ce beau caractère de Jésus. Plein de tendresse, de délicatesse et d'amour. Remplis-nous de ton esprit. Aide-nous à obéir à cette parole avec joie et foi. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.